que pour investir, le déchiffrage.
Félix Baron du Club des investisseurs indépendants. Bonjour Félix.
Antoine, bonjour.
Et Christian Fontaine du magazine Le Revenu.
Bonjour Antoine.
Merci d'être là. L'IA, bulle ou pas bulle, finalement, la question elle est vite répondue, comme dirait le grand philosophe du 21e siècle. Mais au-delà de ça, on a l'impression de plus y voir clair nulle part. On a eu une belle hausse du côté de Wall Street hier soir, on ne comprend pas trop pourquoi. On entend des sommes records d'investissement, encore une fois, alors du côté de la Corée du Sud, du côté des hyperscalers, etc. On doute encore beaucoup de la rentabilité de ces investissements, même si globalement, beaucoup d'entre eux arrivent à afficher des comptes qui sont quand même tout à fait investissables. Malgré tout, on sent un vrai coup de pompe des marchés à ce niveau-là, Félix. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi ?
Oui, bah, plus ça va et plus le marché achète un petit peu moins, avec un petit peu moins de candeur, les modèles tech IA, plus le marché devient sélectif et se demande où est-ce qu'on va avoir soit le plus de croissance, la meilleure croissance, c'est un petit peu encore à la course là-dessus, ou bien les plus prudents maintenant, la meilleure combinaison, et je vais en reparler, entre la croissance et la rentabilité, ou bien carrément, il y en a qui commencent à jouer, même les cash machines de la tech, il y en a, elles sont assez décotées, et ça aussi, j'en parlerai. Donc, de la prudence, et puis un peu moins d'illusions sur les super cycles de la tech et de l'IA. Il y en a encore un peu sur la mémoire, il y en a encore un peu sur, sur certains fournisseurs de fournisseurs, mais disons que l'euphorie devient plus sélective. Quoi.
Ouais, de fournisseurs qui financent les premiers fournisseurs pour pouvoir acheter la fourniture des autres.
Oui, et puis sur ce que vous disiez, quand on parle de est-ce que ces investissements lourds, ces capex en infrastructure sont rentables, en fait, le trou à 200 milliards qui est devenu le trou à 600 milliards de l'IA qui aujourd'hui a un trou à plusieurs milliers de milliards, c'est toujours la même question. C'est, si vous vendez une puce Nvidia à 2 $, il faut que l'IA, le marché IA génère 6 $ de revenus pour amortir.
Ouais.
Donc vous prenez maintenant le chiffre d'affaires annuel de Nvidia, vous le multipliez par 3 et vous avez une idée de ce qui manque dans le marché pour retrouver ces petits.
C'est fou quand même, ça devient macroéconomique. Christian Fontaine, on le disait, on continue à le dire, l'été promet d'être un petit peu tumultueux. Alors, pour tout un tas de raisons, pour tout un tas de facteurs techniques, de facteurs monétaires, il va vraiment falloir surveiller ça comme du lait sur le feu. En plus, il y a cette crainte de crevaison en règle d'une bulle absolument monstrueuse. Il y a tout un tas de graphiques, on s'en est fait l'écho aussi, qui ramène à 2001 et l'explosion de la bulle Internet. Au-delà de ça, quand on est investisseur, il faut garder la tête froide et il faut serrer les priorités. On en est toujours là et fondamentalement, on va pas avoir un été tranquille. Il faut, si on veut prendre soin de son patrimoine, va pas falloir rester trop longtemps au soleil.
C'est absolument certain. Il faut écouter des bonnes émissions et avoir de bonnes lectures. Moi, je vous propose de citer le rapport sur la stabilité financière de la Banque de France. C'est sorti il y a quelques jours, le 24 juin. Et que peut-on y lire ? Les marchés, j'ouvre les guillemets, les marchés d'actifs risqués, notamment les actions américaines, restent vulnérables à un brusque retournement des sentiments des investisseurs. En fait, la Banque de France, la très sérieuse Banque de France, tire un tout petit peu la sonnette d'alarme sur deux points précis. D'abord, les valorisations. PER anticipé à 12 mois du Standard & Poor's 500 à 21 contre 14 pour le CAC 40. Un écart qui s'explique par la concentration du Standard & Poor's 500 sur les valeurs tech. On en parle dans chaque émission et au revenu aussi. C'est seul les 7 magnifiques pèsent 32% de l'indice phare américain. Si on les corrige de ces 7 capis, le PER du Standard & Poor's 500 tombe à 13,5. C'est en fait à un niveau assez comparable de ses homologues européens. Alors, au-delà des valorisations, la Banque de France insiste beaucoup sur un facteur de fragilité qui est autour de ces deux lettres IA magiques, entre guillemets, qu'on a déjà prononcées une dizaine de fois depuis le début de l'émission il y a quelques minutes. Et la Banque de France s'inquiète en particulier des réactions brutales des marchés aux nouvelles sur les fondamentaux de ces entreprises et en particulier des surréactions lorsque les résultats et les résultats semestriels vont commencer à tomber, lorsque les résultats sont inférieurs aux attentes des analystes. Alors, Il ne s'agit pas pour autant de paniquer. Il est absolument hors de question de mettre en place ce qu'au revenu on appelle la stratégie de l'essuie-glace, c'est-à-dire totalement à gauche ou totalement à droite. Il n'empêche que c'est quand même, je dirais, le moment de se poser un certain nombre de questions. Et au revenu, on en voit trois. Trois questions. Assurez-vous d'abord, quel est le poids? En fait, c'est quel le poids? Quel est le poids des actions dans l'ensemble de votre patrimoine? Est-ce que c'est compatible avec votre profil d'investisseur? On pourrait y revenir. Toujours. Quel est le poids de la tech dans l'ensemble de votre portefeuille? Au revenu, on met la barre à 20%. Au-dessus de 20%, attention. Et quel est le poids des liquidités? On l'a bien vu en 2022. Lorsque les marchés actions et obliques corrigent, la stratégie américaine historique du 60-40 ou du 50-50, 50% actions, 50% obliques ne marche pas. Et donc, je pense vraiment que dans la conjoncture actuelle, si on veut se prémunir et se mettre à l'abri d'un éventuel coup de grisou, il faut avoir une poche de liquidité. Ça me paraît très clair. Vous commenciez, Antoine, cette émission avec une pointe d'humour sur la bulle sur l'IA. Je pense qu'il faut se souvenir quand même, Alan Greenspan, c'était en décembre 96, l'exubérance irrationnelle des marchés. Oui. Ça a tenu quand même 3 ans et 4 mois avant l'explosion de la bulle en mars 2000. Donc je pense que beaucoup de gens sont conscients qu'il y a des valorisations très tendues, notamment autour des entreprises de l'IA. Maintenant, ce n'est pas une raison suffisante pour quitter le marché, car ça peut durer bien longtemps.
Alors, on va détailler un petit peu les proportions qu'on peut avoir en termes d'action, en termes d'action tech, etc. Au-delà de ça, avant d'attaquer ça, Félix, il y a peut-être aussi des affaires à faire là-dedans. On commençait à en parler, il y a presque de la value maintenant dans la tech, tellement le marché est devenu granulaire, en fait, si on peut dire.
Oui. C'est vrai que c'est le terme à la mode, granulaire. Et Christian le disait bien, attention maintenant à la pondération de certaines boîtes dans les indices. Parce que la stratégie indicielle de mettre sur un ETF et d'attendre que ça passe, et j'espère pas que ça casse, elle devient dangereuse quand vous avez des SpaceX, quand vous avez des Tesla, quand vous avez des Nvidia, etc., qui sont surpondérés dans l'indice. Donc, ma question en ce moment, et mon discours, est de dire qu'il faut être de plus en plus sélectif sur les valeurs tech IA et de continuer à s'exposer à la croissance du secteur, mais avec de plus en plus de sécurité et de sélectivité. Donc, comme on rentre dans la période des soldes, même si c'est plus ou moins les soldes toute l'année maintenant, on sait que c'est quand même plus marqué généralement
de plus, d'ailleurs.
À la fin de l'hiver et au début de l'été, je suis allé regarder 10 actions tech qui me paraissent celles qui coûtaient le moins cher et qui avaient beaucoup baissé depuis certains mois. Et quand je dis beaucoup baissé, je ne parle pas forcément du cours de l'action. Je parle d'indices de cherté par rapport à leur pair. Donc, on va ressortir le ratio ultra connu de PER, c'est-à-dire de combien vous achetez les bénéfices, la capitalisation divisée par le résultat. Mais j'aime bien le croiser aussi avec le PEG, c'est-à-dire combien vous achetez la croissance de ces bénéfices. Et c'est important quand on parle de la tech, un secteur autant en croissance.
G pour growth, j'imagine.
G pour growth, exactement. Ouais. Antoine, vous connaissez vos classiques. Donc, j'ai pris quand même 5 filtres. Le premier, c'est la croissance du chiffre d'affaires. Je veux que la croissance soit au moins à 2 chiffres, et au-delà de 20% si possible. 2, avoir un modèle robuste, plutôt désendetté, connu depuis plusieurs années, avec des barrières concurrentielles importantes. 3, une forte marge. Et puis, je reviens sur mes 2 indicateurs. Un ratio PER pas très cher, si possible en dessous de 25. Et un ratio PEG pas cher du tout, si possible en dessous de 1. C'est rare, mais quand on l'atteint, vous allez voir qu'on peut faire des bonnes affaires. Et je suis tombé sur... Je vous ai fait un top 5. Dans le top 5, il y en a 4. Vous êtes forcément client. Vous allez voir. Je commence donc par Meta Platform. Si vous n'avez pas Instagram,
tiens,
vous avez probablement WhatsApp.
Ouais.
Si vous n'avez pas WhatsApp, je ne sais pas où vous êtes. Vous nous regardez peut-être d'une caverne, mais il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a Instagram. C'est le roi de l'efficacité. Meta Platform, vous avez une croissance de 33% du chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois. C'est soutenu par quoi ? Par l'intégration de l'IA dans les algorithmes publicitaires sur Facebook, sur Instagram. J'ai jamais été aussi bien ciblé qu'à l'approche de l'été. J'ai l'impression qu'Instagram m'écoute.
Cette impression-là.
Avec une marge hallucinante de 41%, une marge opérationnelle de 41%, et pourtant un ratio PER de 18 fois. 18 fois, on est loin des 30, 40, 50 qu'on a connus sur la tech. Un PEG en dessous de 1 à 0,94. Donc là,
on est même en dessous de 1 de PEG.
Vous avez une croissance de start-up avec des marges de LVMH au prix de Danone. En gros, au prix d'une bonne paire de famille. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est le top 1. Je commence par là. Ensuite, 2, Broadcom. Alors Broadcom, vous n'êtes pas forcément client ou alors indirect. Là, on n'est pas forcément sur les puces IA classiques à la Nvidia, on est sur des puces IA customisées.
Ouais.
Mais il y a encore une demande très forte, hein, la preuve, 48% de croissance sur les 12 derniers mois, 67% de marge opérationnelle. Là, c'est sûr qu'une fois que c'est lancé, vous êtes très, très bénéficiaire.
Ouais.
Alors, OK, le ratio PER, il est à 54. Donc là, on peut se dire que c'est cher, mais par rapport en fait au trimestre précédent, c'est moins cher. Mais surtout, le PEG, la croissance des bénéfices, elle, elle est à 0,54. Donc, ça peut être un ratio qui est cher,
oui,
mais la croissance des bénéfices, elle s'achète de manière pas chère.
D'accord.
Trois, vous êtes tout le monde des clients, c'est Alphabet, Google, globalement,
c'est YouTube, Internet, etc. Voilà.
Alors, ça va très vite dans le cloud, ça va très bien dans la pub, hein, on encaisse bien les résultats, mais Wall Street n'a pas encore fait payer ça dans le cours.
Mmh.
22% de croissance grâce au cloud, grâce à un marché de la pub assez stable. Marge opérationnelle de Google, alors pour le coup c'est 31%, mais c'est pas en 2026, c'est historique cette marge. Donc on sait qu'elle est capable de la défendre encore plusieurs années. PEG 0,55. En gros, le marché ne paye absolument pas la croissance de Google alors qu'elle est là, tous les trimestres à deux chiffres.
Ouais.
Et avec ce niveau de cash et ce niveau de résultat, c'est une très très bonne marge de sécurité. Mmh. Donc, Google doit s'échanger entre les 320-360 $ la dernière fois que j'ai regardé. Il y a une affaire.
Bon.
En 4, vous avez Microsoft.
Ouais.
Là aussi, si vous n'êtes pas client.
Ça fait des mois qu'on le dit. Hein.
Oui, mais et moi, je continue à le dire. Je l'ai dit à 450, je l'ai dit à 420, je le dis à 360.
Ouais.
D'autant plus. Et pas pour me donner raison parce que ça baisse. Non, je préférais que ça monte. C'est juste que là, c'est plus une affaire, c'est un hold-up. Vous pouvez acheter la forteresse, la cash machine de la tech la plus rentable pour probablement le PE le moins cher du marché à 22 fois. Et une marge de 44%. Là aussi, PEG inférieur à 1, 0,74. Mais au-delà de ça, Microsoft, cette année, au dernier trimestre, ils vont arriver à un stade où ils font plus de 100 milliards de revenus par trimestre. Donc, c'est plus une grosse boîte de la tech ou une magnifique. C'est un mastodonte. Les problèmes qu'il y a sur la mémoire des Xbox, sur le ROI du cloud avec Azure, quand on voit la croissance qu'il y a derrière, c'est des problèmes qui existent, mais c'est absolument pas critique pour Microsoft. Et je finis sur Netflix, et ensuite je pense que Christian va vouloir me dire quelque chose.
Oui.
Netflix, très intéressant, parce que là vous avez du cash et de la croissance,
ouais,
et vous n'avez pas à vous prendre la tête sur les investissements de l'IA.
Ah ben non, on est hors cadre.
Tout le monde comprend le modèle. Et d'ailleurs, dans les 5 boîtes dont je vous parle, à part Broadcom, tout le monde capte le modèle assez vite.
Mmh.
Netflix, c'est le PEG le plus faible du tableau, hein, 0,52. Vous avez des marges opérationnelles qui continuent d'augmenter parce qu'elle a déployé son modèle mi-pub, mi-payant, le moins cher. Le modèle de partage de comptes existe aussi.
Ouais.
Le modèle est clair, tout le monde le comprend. Les concurrents existent, mais ils sont beaucoup moins nombreux parce que Netflix a l'avantage d'être pionnier. Là, pour le coup, c'est encore une fois du cash et de la croissance à moindre coût.
Bon, y avait quelques petites affaires à faire. Alors, voilà, ça c'est de la théorie. Il y a aussi l'irrationalité des marchés qui rentre en ligne de compte. De quoi, voilà, justement, rester prudent et en termes d'allocation d'actifs, de répartition, en termes d'actions et en termes d'actions particulières. Voilà, l'été s'annonce prudent et il faut le voir comme ça.
Je vais être cohérent avec ce que je viens de vous dire il y a quelques minutes. C'est-à-dire, j'incitais plutôt les auditeurs et les auditrices à se constituer une poche de liquidité.
Ouais.
Je pense que ce n'est pas forcément le moment de faire son marché. Après ça, si vous voulez véritablement, vous avez déjà une poche de liquidité, vous voulez déjà essayer de vous renforcer. Moi, je trouve que il y a dans les valeurs de conso, il y a le luxe français, voire des mid-cap comme Seb, qui peuvent présenter des ratios de valorisation encore plus intéressants. Je me positionnerai peut-être un peu plus sur ces valeurs délaissées que sur les 7 magnifiques, même si c'est vrai que les ratios de valorisation des 7 magnifiques sont, je dirais, relativement raisonnable par rapport à leur croissance, et on n'est pas dans les ratios des microprocesseurs. Il n'empêche que j'ai bien peur qu'en cas de retournement des marchés, notamment du retournement de la tech, le bébé parte un peu avec l'eau du bain, et que donc j'invite vraiment, alors il ne s'agit pas de se retirer entièrement des marchés, mais je pense quand même qu'il faut être relativement prudent dans la conjoncture actuelle.
D'autant que cette prudence peut être aussi alimentée par le fait que, et effectivement c'est tout à votre honneur de chercher d'autres ratios pour alimenter votre grille de lecture. Tout ce qui est PE, tout ce qui est finalement, tout ça devient très, très relatif et le marché va plus piffer là-dessus. Hein. En fait, il va directement capter la dynamique.
Alors, vous savez, je pense qu'essayer de deviner quel sera le niveau des grands indices dans quelques mois, c'est intéressant, mais je pense qu'il est les investisseurs particuliers ont davantage à gagner, à s'interroger véritablement sur leur portefeuille, la composition de leur portefeuille et les critères à prendre en compte. On ne parle pas assez, par exemple, du taux de rotation d'un portefeuille. Warren Buffett, on le cite très souvent, et c'est vrai que Warren Buffett, il milite pour des rotations de portefeuille très faibles. On investit pour le long terme. Ouais. Donc, c'est du buy and hold avec des rotations inférieures à 5 ou 10%, c'est-à-dire le total des ventes rapporté à la valeur moyenne du portefeuille chaque année inférieure à ce type de ratio. Je pense que c'est intéressant de regarder. Ouais. C'est intéressant de regarder aussi la diversification et surtout la concentration de votre portefeuille. Que pèse le top 1, le top 5, le top 10 de votre portefeuille? C'est-à-dire le poids de l'action la plus importante au sein de votre portefeuille. Est-ce qu'elle pèse 5, 10, 15 ou 20%? Le top 3, le top 10. Et ça, ce sont des ratios qu'il faut vraiment avoir en tête et calculer ces ratios pour votre portefeuille et ça vous donnera des pistes d'investissement ou de désinvestissement.
Allez, le mot de la fin en quelques secondes, Félix.
Non, mais c'est vrai. Là, mon analyse sur les 5 actions est, je pense, valable tant que le marché continue à acheter de la croissance.
C'est ça.
Quand il se retourne, notamment à la faveur d'une hausse des taux d'intérêt, le marché va chercher à acheter du cash et du rendement. Et là, Christian a sans doute raison. Il y aura eau du bain, bébé, mémé, orti, tout ce que vous voulez. On va tout balancer et on va chercher de l'énergie et des dividendes.
Ouais, et on va être très prudent cet été, encore une fois. Merci infiniment, Félix Baron, Club des investisseurs indépendants, Christian Fontaine du magazine Le Revenu.